Une escapade musicale inoubliable pour Raphaël Humbert à partager vendredi pour une soirée exceptionnelle à Château-Arnoux.
Musicien autodidacte, né en 1974, Raphaël Humbert poursuit un chemin atypique dans la grande famille du jazz et des musiques improvisées. Artiste et pédagogue exigeant, arrangeur et improvisateur recherché, l'un de ses domaines de prédilection est le spirituel dans le jazz. Il est cité comme l'un des musiciens les plus outrageusement doués de sa génération. Durant 3 années, il effectue des voyages d'études sur l'improvisation dans les musiques traditionnelles et populaires dans le Deep South, le sud des États-Unis. Il y joue systématiquement avec les musiciens qu'il rencontre. De cette aventure intellectuelle, artistique et humaine est né le projet Music is my home, associant 3 artistes américains, 2 vétérans du blues, Big Ron Hunter et Alabama Slim, également la nouvelle perle de la Nouvelle-Orléans, Leila McCalla, et enfin l'étoile montante du jazz hexagonal, la batteuse Anne Paseo. Il donne naissance à un répertoire original avec des références aux racines de la musique américaine et à des improvisations contemporaines entre mémoire et actualité. Raphaël Humbert et la compagnie Nine Spirit qu'il dirige composent un magnifique rassemblement en compagnie d'invités qui pulvérisent les chapelles, les a priori, les attendus. Tous invitent le public à une fête musicale et populaire portée par le groove vivant du blues, du jazz et du folk le vendredi 30 janvier à partir de 21h au Théâtre Durance de Château-Arnoux-Saint-Auban. Les réservations sont d'ores et déjà à prendre au 04 92 64 27 34 04 92 64 27 34. En attendant cet événement inédit, le cinématographe a offert une mise en bouche au public en diffusant l'escapade de ce musicien hors pair. Tourné en 2011, ce film, réalisé par Régis Michel, journaliste et réalisateur de télévision, met en image la rencontre entre Raphaël et les musiciens conviés vendredi au Théâtre Durance, une alchimie évidente et authentique. Le musicien et l'homme à la caméra répondent aux questions de Mario Poncelet. Raphaël Humbert.
Ce qu'on a projeté, c'était totalement inédit, c'est même du work in progress. C'est des images, tout d'un voyage qu'on a fait dans le sud des États-Unis avec Régis, où moi je rencontrais et je jouais avec plein de musiciens de traditions différentes, bluegrass, country, blues, jazz et tout ça. Et Régis m'a suivi sur deux voyages, on a fait 2 voyages ensemble. Donc c'est vraiment le sud des États-Unis, Louisiane, Alabama, Géorgie, Caroline. Et on a établi des sortes de rencontres improvisées tout autour de l'improvisation, de l'échange, de l'accueil. Et ça donne lieu vraiment à des moments assez privilégiés qu'on va retrouver sur scène après, qui est à la fois un projet documentaire, puis des projets scéniques aussi, musicaux, qu'on va retrouver sur scène au Théâtre Durance la semaine prochaine. Voilà.
Et comment cette idée vous est venue, en fait, de partir faire un reportage comme ça ?
Alors moi, en ce qui me concerne, moi j'étais missionné dans le cadre d'une mission de recherche, dans le cadre de mes études, parce que je fais aussi de la recherche sur la musique, en anthropologie, donc j'étais missionné, et j'ai rencontré Régis rapidement, et en lui racontant un peu le projet, et ce que j'avais déjà pu constater, Régis m'a suivi, en fait, est venu avec moi, et on a pu prendre et filmer ces moments-là. Mais là, Régis peut aussi évoquer ce que lui, ça lui a apporté, comment il a vu les choses, puis quel projet on aimerait monter avec ça, quoi.
De tête, je me rappelle, en fait, il se trouve que j'ai eu de la chance. Raph partait au moment où moi j'étais là en France, entre 2 autres reportages, et du coup j'ai pu l'accompagner. Et au final, je suis ravi parce que ce premier voyage, ça a été une sacrée découverte. Moi, je prends une claque, entre guillemets, musicalement, sur les rencontres, la découverte du sud des États-Unis que je ne connaissais pas. Je connaissais la côte est, la côte ouest, mais pas le sud. Et voilà, là, les choses se font parfois par hasard, et tant mieux. Je n'aurais pas été disponible à ce moment-là, je ne l'aurais pas accompagné, donc je n'aurais peut-être pas eu de deuxième voyage non plus. Voilà, et ça s'est fait. Et puis le premier donne envie, on y retourne. Et aujourd'hui, on en est à vouloir y retourner à tout prix, et surtout pour faire une série sur la musique qui serait pour les chaînes de télé, puisque moi ma vocation c'est de faire des films pour la télé, donc d'en faire une série pérenne sur une façon de découvrir la musique à travers le monde, à travers le voyage. C'est du déjà vu sur certaines chaînes, on diront certains, mais là l'idée, je pense qu'il y a plus d'authenticité, plus de découvertes et plus de richesses dans les rencontres que Raph peut faire dans ce type de voyage. Donc voilà, c'est un projet, comme il disait, c'est work in progress. On est là, on a fait ça c'est le premier voyage, il y a eu d'autres images, énormément énormément d'autres images sur le deuxième. Je suis impatient d'en faire un troisième et là de le rendre professionnel dans le sens de la diffusion, quoi, que ce soit pour les chaînes de télé, pour les salles, je sais pas, enfin d'une manière ou d'une autre. Je vois que ça plaît aux gens et évidemment que ça plaît aux gens parce que tout ce qu'on voit et tout ce qui s'y passe est très très authentique, quoi.
Le format qui a été projeté ici à Château Arnoux, c'est un format 40 minutes. Faire plus peut-être, ça serait prévu parce que ça donne vraiment envie en tout cas de voir plus justement.
Oui, encore une fois, ce film-là n'était pas fait du tout pour être projeté, même pas dans une salle. Il est fait pour donner envie aux chaînes de télé, en fait. Donc à des gens que je rencontre moi et à qui je montre ça sur l'ordinateur. C'était pas du tout une version prévue pour être diffusée, montrée à un public en salle ou bien à la télé. Donc ce format de 40 minutes, il est très bâtard, on va dire, professionnellement. Il faudrait que ce soit au moins 52 minutes ou bien deux fois 52 minutes ou bien X fois 52 minutes. Mais voilà, c'est l'idée, c'est de le traiter autrement. Et là, c'est vrai que moi, j'ai pas le temps parce que j'ai pas le budget, mais avec ce qu'on a déjà ramené, parce que j'ai ramené des deux premiers voyages, on pourrait faire largement 90 minutes, voire plus. Hein, la matière est là, quoi.
Vous avez rencontré un groupe de personnes pour faire ce qu'on appelle Game Buff, et vous êtes aperçu tout naturellement que la bande était tous des virtuoses. C'est fréquent dans cette région.
C'est fréquent parce qu'il y a une pratique musicale et un apprentissage de la musique qui est complètement différent d'ici. C'est-à-dire que le conservatoire, l'école de musique, c'est une finalité, c'est pas un début. Généralement, on apprend la musique dans le cadre communautaire, familial, dans le cadre sociétal, on va dire. Voilà. Donc c'est la famille, c'est l'église, c'est les clubs, c'est ce genre de choses, c'est les fêtes. Nous, par exemple, à la Nouvelle-Orléans, énormément de fêtes très organisées dans lesquelles la musique a une importance capitale. Et la musique, en plus, est un élément de transmission entre générations. Et puis au final, si on veut en faire son métier ou si on veut devenir prof de musique, bah là on passe par le conservatoire. Nous on fait l'inverse. Ah, je voudrais faire de la musique, bah tu vas aller à l'école de musique de ton village ou au conservatoire, puis d'abord tu vas apprendre le solfège et puis après tu vas toucher un instrument et puis au final tu vas jouer en groupe. Et tu te retrouves dans la boîte, pour prendre l'expression de Bigron qui nous disait, voilà, les musiciens qui jouent que sur partition, ils sont un peu dans une boîte et ils ont du mal à en sortir. Donc pour eux, c'est une énorme facilité. Et l'expression de virtuose, c'est surtout des gens qui ont une maîtrise du langage musical qui est énorme. Ils font ce qu'ils veulent. Même dans le cas d'Alabama Slim, on va dire, c'est pas un virtuose au sens technique, puisqu'il a une approche presque, c'est pas rudimentaire, mais très personnelle et très, il nous a dit clairement dans les discussions, il dit, moi, je m'en foutais de jouer d'autres styles de musique. Moi, ce que je voulais, c'était faire ça et je ne fais que ça. Mais c'est une forme de virtuosité aussi. Et c'est une forme aussi de maîtrise du langage qui est énorme. Donc on se retrouve avec des musiciens qui, en plus, comme ils ont strictement rien à prouver, ce qui est pas mal aussi, parce que j'en connais beaucoup qui ont beaucoup de choses à montrer, ils ont rien à prouver, donc ils sont très, très curieux et très aimables, au premier sens du terme, pour des musiciens étrangers, d'autres styles, qui viennent jouer avec eux. C'est pas pour ça qu'ils vont se dire, ah tiens, ils vont pas forcément faire la démarche en se disant, bah, je vais monter un truc avec ce gars-là, mais ils disent, c'est bien. Voilà. Et cette simplicité-là, ce côté très direct, très simple, mais c'est pas du tout simplé ou simpliste, hein, c'est pas ça. Les choses se passent. Naturellement, les choses se passent. Donc tout va bien.
La musique, encore plus, j'imagine, avec ce genre de personnes, brise un bon nombre de barrières, que ce soit raciales, ethniques, culturelles.
Ah oui, évidemment. C'est-à-dire que là, nous, quand on voit ça de l'extérieur, par le prisme des médias, de la recherche, tout ça, on a une vision très, compartimenté stylistiquement, culturellement, ethniquement et tout ça. Du reste, ça l'est, c'est vrai en grande partie, hein, je veux dire, on va pas se voiler les faces, on le voit dans le film, hein, je veux dire, il y a beaucoup de musiciens noirs qui jouent avec des musiciens noirs, qui jouent très souvent pour un public blanc. Maintenant, le blues, par exemple, est devenu une musique essentiellement écoutée en concert par un public blanc. Inversement, quand on est allé à Asheville jouer avec des musiciens de bluegrass, on n'a pas vu beaucoup de musiciens noirs, métis, hispaniques. Ceci étant, les choses changent, évoluent, et historiquement, ça a toujours été des musiques de métissage, et même au-delà du métissage, de créolisation. Vraiment voilà, c'est-à-dire que c'est des musiques qui ont été créées parce qu'elles se sont mélangées. Des musiques qui ont été créées parce que c'est une histoire de rencontre et de rencontre entre cultures qui n'auraient pas dû se rencontrer. Voilà. Donc on est en plein dedans, et je crois que personne n'est dupe de cette chose-là. Donc effectivement, par contre, dès que les éléments de contrôle médiatique, de pouvoir et tout se mettent en jeu, là les choses sont très séparées. Voilà. Mais ceci étant, il y a beaucoup de musiciens maintenant, d'artistes, d'intellectuels qui luttent contre ça. Voilà. Finalement, c'est assez intéressant, je trouve, par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment en France, d'avoir aussi ce rapport, de voir cette vision de l'Amérique telle qu'elle fonctionne et telle qu'elle ne fonctionne pas. Pas ou peu de sécurité sociale, une violence assez présente malgré tout. Et puis, des problèmes de racisme, on l'a vu. Hein, je veux dire, c'est quand même le paradoxe énorme d'avoir Obama président et d'avoir une série de faits divers de la police américaine qui n'hésite plus à tirer d'abord avant de parler quand il s'agit d'un jeune noir. Donc les problèmes sont toujours là. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on a été surpris plein de fois par le pouvoir de la musique à créer, au-delà du mélange, mais une communauté unique finalement.
Juste en complément de ce que dit Raph, puis bon, je parle sous sa gouverne, il en sait plus que moi, mais on peut penser qu'effectivement la musique au cours du XXe siècle, c'est un des grands vecteurs du rapprochement entre les communautés. C'est ce qui a fait craquer sans doute le cloisonnement entre ces communautés. Si de manière institutionnelle, les Blancs et les Noirs étaient effectivement ne devaient pas jouer ensemble parce que c'était effectivement comme ça, c'est vrai qu'en même temps, la pratique de la musique aux États-Unis se fait dans la rue, dans la ville, tous les dimanches à l'église, etc. Ce qui fait que ça transpire, quoi. Et forcément, elle est tellement présente, notamment dans le sud des États-Unis, qu'un jour ou l'autre, ça devait forcément, par capillarité, rapprocher les gens, quoi. Et c'est pour ça qu'on voit effectivement des musiques que nous, on catalogue d'ici, blanches ou noires, parce qu'elles l'ont été à l'origine et qu'elles ont, on en a toujours eu cette image. On voit bien sur le terrain que c'est pas tout à fait ça. Et heureusement, et je pense que dans l'abolition, finalement, de l'apartheid américain dans les années 60, je pense que la musique a dû y contribuer énormément. Enfin, la musique, les églises, il y a tout un tas d'autres vecteurs, mais c'est évident qu'on est là sur un terrain où la pratique de la musique est très différente de chez nous aujourd'hui, où la musique ici elle est professionnelle ou elle n'existe pas, quoi. Enfin, grosso modo, il y a très peu d'expressions libres de musique. Là, ce qui est surprenant, tous les gens que j'ai filmés et que Raph a rencontrés et lesquels il a joué, les trois quarts sont des musiciens amateurs, mais je pense que c'est des gens qui jouent plus que des professionnels ici, qui jouent même plus devant des publics, parce qu'en fait ils ont beaucoup l'occasion de jouer devant un public gratuitement ou juste pour à la casquette, quoi. C'est des gens qui ont une pratique musicale plus importante que des pros de chez nous, quoi. Ils la transpirent, la musique, ils la pratiquent tous les jours, et jouer gratuitement, ça leur pose aucun problème. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont professionnels et ils savent pas faire ça. Enfin, ils savent pas, ils ont, voilà, c'est comme ça, c'est tout autrement, quoi.
On va rencontrer un bon nombre d'artistes que vous avez rencontrés vous-même lors de ce voyage au Théâtre du Rance à Château-Arnoux prochainement.
Oui, le 30 janvier, c'est le concert. On enregistre au Théâtre du Rance et on profite pour faire un concert donc au théâtre avec comme invité. Donc il y a ma compagnie, musicien français, Simon Sigeur, Thomas Vériche, Pierre Finichel. Et puis on a Anne Passeo, une des plus grandes batteuses ou batteurs, je ne sais plus, de la nouvelle génération en France. Et trois invités qu'on a vus dans le documentaire, là, c'est Big Ron Hunter, Alabama Slim et Laila Makkala. Voilà, donc ça fait 3 ans en fait qu'on est dessus, 2 ans qu'on prépare le truc, on le sait. Et là on y est, en fait j'y crois toujours pas trop, c'est un peu irréel. Ça s'est concrétisé en fait, là. J'ai vu le public qui est venu, les gens qui sont intéressés. Donc là on se dit ça y est, ça commence à monter un peu.
Oui, moi je dirais juste, je serai pas sur scène du coup, mais je suis pas de Saint-Auban, Château-Arnoux. Je viendrai évidemment pour l'occasion, je filmerai peut-être d'ailleurs, mais c'est pour dire aux gens que s'ils écoutent, il faut qu'ils viennent, quoi, parce que c'est... Non mais c'est un peu exceptionnel, quoi, ces choses-là. C'est vrai que là, des gens comme ces musiciens-là venu de là-bas, que Raphaël invite à venir jouer ici, c'est des vraies pépites, quoi. C'est pas des stars de la musique mondiale industrielle, c'est des gens qui sont encore dans une authenticité très forte, qui vont mélanger leur musique, parce que même s'ils sont de la même région, ils jouent pas les mêmes choses, ils jouent pas... D'ailleurs, ils vont jouer ensemble tous les trois pour la première fois avec Raph, donc c'est un peu une première aussi. Et franchement, là, pour les gens qui aiment la musique ici, du blues au jazz, en passant par la country, le folk et tout le reste, vous en aurez pour votre argent, quoi. Sans compter que ça va pas être très cher, donc voilà. Donc venez.